L'Institut Weimar en Californie a mis au point un programme de mise en forme physique en utilisant des méthodes naturelles. Ce moyen de faire est très populaire aujourd'hui. La génération des baby boomers, comme on les appelle, sont des gens qui veulent prendre soin de leur santé et en particulier en utilisant les méthodes naturelles. On n'a jamais vu autant qu'aujourd'hui des gens qui courent dans la rue, qui font du jogging autour de leur bloc de maison, des gens qui remplissent les salles d'entraînement le soir après le travail, des gens qui se promènent avec une grande bouteille d'eau parce qu'il faut boire de l'eau, etc., etc. Ainsi, ce programme qui s'appelle New Start est devenu très populaire et l'Institut Weimar raconte que beaucoup de gens ont vécu des expériences extraordinaires, des transformations dans leur forme physique qui tiennent véritablement du miracle. En fait, New Start est un acrostiche qui marche parfaitement en anglais parce que c'est en anglais, mais en français la plupart du temps. Le N pour nutrition, E pour exercice, W, water, pour l'eau, S pour le soleil, T pour la tempérance, A pour l'air, R pour le repos, T, trust, la confiance, la foi. Un programme en 8 étapes qui utilise 8 méthodes naturelles, si vous voulez, pour se remettre en forme physiquement. Et je me disais, si seulement les baby boomers étaient préoccupés de leur santé spirituelle comme ils le sont de leur santé physique, ce serait merveilleux. Et si en plus, ils utilisaient pour leur santé spirituelle les mêmes méthodes que pour leur santé physique, ce serait même extraordinaire. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. Mais en pensant à ces 8 moyens naturels qui sont utilisés pour nous remettre en forme physique, j'ai pensé qu'il y a là aussi des clés importantes pour nous remettre en forme spirituelle. Et permettez ce matin que ce programme de New Start, ce programme de nouveau commencement, nous le prenions dans l'angle spirituel, de façon à retrouver une forme spirituelle à la mesure de ce que le Seigneur nous demande. Le premier, c'est N pour nourriture. Nous ne pouvons pas manger une fois pour toutes. Je sais qu'au moment des fêtes, au moment de Noël et de certaines célébrations, des gens nous donnent l'impression de voir les choses de cette façon-là. Mais vous savez très bien que ça ne marche pas. Nous devons manger régulièrement pour nous nourrir. De plus, les autres ne peuvent pas manger pour nous. C'est quelque chose de très personnel. Nous devons manger nous-mêmes. Et dans un sens, on aime mieux manger nous-mêmes plutôt que ce soit les autres qui mangent à notre place, n'est-ce pas? C'est au moment du dessert que l'on voit ce principe-là se mettre en action particulièrement. Maintenant, dans le domaine spirituel, il en est de même. Et c'est vrai que dans le domaine spirituel, peut-être bien plus que dans le domaine purement physique, nous rencontrons des gens qui nous donnent l'impression de croire que manger une fois pour toutes suffit. Partir avec seulement l'expérience qu'on a vécue au baptême, sans avoir besoin de la renouveler, suffit. On va faire un gros repas spirituel lors d'une semaine de prière, lors d'un camp meeting, lors d'une semaine d'évangélisation. Et puis ensuite, c'est un régime de famine. Et si on ne compte que sur les sémons du sabbat matin pour se nourrir, nous allons être spirituellement mal nourris. Jésus disait dans l'évangile de Jean au chapitre 6, au verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. » Jésus va se présenter comme étant le pain venu du ciel, autrement dit la nourriture spirituelle. Et dans ce sens-là, si nous voulons profiter de cette nourriture spirituelle, il faut aller la chercher là où elle se trouve. Comment donc pouvons-nous manger Jésus, si vous me permettez cette expression? Nous avons sa parole entre nos mains. C'est là qu'il nous a révélé qui il est, comment il agit et pourquoi. Et nous avons dans sa parole tout ce dont nous avons besoin pour le connaître et pour nous nourrir de ce qu'il fait. Je vous propose de regarder un passage dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 4, où l'apôtre Paul parle de ces choses. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, au verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Comment est-ce que nous allons nous nourrir? Précisément par la parole, par l'entretien de cette connaissance de l'enseignement de Dieu dans sa parole, par la foi. Permettez que je vous lise ce paragraphe tiré du livre Jésus-Christ. Il nous serait avantageux de passer chaque jour une heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser de manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ se trouve affermie, notre amour est intensifié et son esprit pénètre plus complètement. Alors sommes-nous des mal nourris spirituellement? Comptons-nous sur des événements particuliers pour avoir la nourriture dont nous avons besoin? Ou au contraire, est-ce que nous nous nourrissons chaque jour de l'étude de sa parole dans la prière? Une nourriture quotidienne. Nous en avons besoin pour notre corps, une nourriture équilibrée. Nous en avons de même besoin pour notre vie spirituelle. Le deuxième moyen naturel qui nous est proposé, c'est l'exercice. Et vous savez comme moi, comment l'exercice est important, mais comment aussi c'est ce qui est facilement mis de côté, pris par tous les soucis et les préoccupations de la vie. Le même texte continue dans 1 Timothée chapitre 4, un ou deux versets plus loin, il est dit au verset 8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, dit l'apôtre Paul, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » L'exercice physique, dit l'apôtre Paul, c'est bien, mais ce n'est pas essentiel. Il faut dire que lui, il en avait sa dose. Il faisait tout à pied. Pas de voiture, ni de train, ni d'avion. Donc l'exercice, il en avait suffisamment. Et il dit, exerce-toi à la piété. L'exercice de la piété, c'est-à-dire la mise en pratique de ce que nous savons être nécessaire pour entretenir cette relation avec Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, Jésus disait « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce que nous faisons n'est pas destiné à nous glorifier nous, mais à glorifier Dieu, nos actions, notre vie, le service que nous rendons aux autres. » Par conséquent, il s'agit de pratiquer ce que nous avons accepté comme étant vrai, vivre ce que nous croyons. Et Jésus nous a demandé de faire certaines choses. Une des dernières choses que Jésus a demandé à ses disciples avant de partir, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, de leur enseigner ce que Jésus leur avait enseigné, de leur montrer comment le pratiquer. Ainsi, dans l'exercice de la piété se trouve aussi l'exercice du témoignage. Parce que quelqu'un qui est convaincu par ce qu'il a reçu et de cette relation avec Christ va le partager, va le répandre autour de lui. La connaissance qu'il a reçue l'a tellement ému et transformé qu'il veut aussi que ce même résultat se trouve chez les autres. Il va donc partager, témoigner, mettre en activité ce qu'il a reçu. C'est bien d'être bien nourri, mais si on se nourrit sans faire de l'exercice, vous savez tous ce qu'il arrive. Dans le domaine spirituel, nous sommes invités à faire de même, et l'apôtre Pierre, dans sa première épître, reprend le même thème. Lisons ensemble ce texte, voulez-vous, dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, au verset 10. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10, dit ceci. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous sommes appelés des dispensateurs des grâces reçues de Dieu, des distributeurs des grâces que nous avons reçues, appelés à les partager, à les transmettre. Ce que nous recevons, nous sommes invités à le donner. C'est l'exercice de la piété dans le témoignage, dans le partage. La nourriture, l'exercice, Le numéro 3, c'est l'eau. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, au verset 37, 38 et 39, il est écrit ceci. Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 37 et suivant. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jésus a parlé de la même manière à Nicodème, il a parlé de la même manière à la Samaritaine, invitant la Samaritaine à boire, non pas seulement l'eau du puits, mais à boire ce que Jésus peut offrir. Dans la parole de Dieu, l'eau, sous ses différentes formes, que ce soit la pluie ou les fleuves, sont utilisées pour parler du Saint-Esprit. Et la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, parle de cette pluie de l'arrière-saison et puis la pluie de la première saison aussi, indiquant par là l'action du Saint-Esprit au moment de la Pentecôte, bien sûr, mais dans le début de notre expérience personnelle, et puis de l'action du Saint-Esprit pour amener cette expérience personnelle à un accomplissement, à un achèvement. Ainsi, que ce soit pour notre expérience personnelle ou que ce soit par rapport à l'expérience spirituelle du monde et de l'Église, il y a une première saison et puis il y a une arrière-saison, des moments forts où Dieu veut agir par son Saint-Esprit. L'action de son Saint-Esprit est représentée par cette action rafraîchissante de boire de l'eau fraîche. Et c'est aussi une nécessité. Mais évidemment, nous n'allons pas nous mettre à boire si nous n'avons pas soif, et là encore, nous demanderons l'action du Saint-Esprit à Dieu si nous sentons notre besoin de son action en nous. Si nous nous sentons satisfaits de nous-mêmes, nous ne demanderons rien et nous n'aurons rien. Ainsi, nous avons besoin de sentir à quel point nous sommes incapables de changer notre caractère, notre vie. Il faudra que ce soit une action surnaturelle, une action de Dieu. Et c'est là que nous demanderons au Seigneur de nous donner cette eau qui vient de lui, et qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Vous vous souvenez, Jésus parlait à ses contemporains et leur disait, dans ce texte de l'évangile de Luc au chapitre 11, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Et j'aime cette comparaison parce que nous pouvons tous la comprendre. Si notre enfant nous demande à manger, y a-t-il une hésitation pour lui donner? Non, jamais. Oui, si c'est entre les repas, vont me dire les diététiciens. Je suis d'accord. Mais cette image est forte parce que qu'y a-t-il que nous ne ferions pas pour nos enfants? Et Jésus dit, mais n'oubliez pas, Dieu est notre Père. Si vous lui demandez l'action de son Saint-Esprit, pensez-vous qu'il va réfléchir à deux fois avant de vous le donner? Ainsi, nous avons besoin de boire à longs traits à cette source de l'eau qui vient de la part du Seigneur et qui est l'action de son Saint-Esprit dans notre existence. Le quatrième remède, c'est le soleil. Le soleil, dans l'histoire religieuse du monde, a souvent été adoré. On a adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Mais il est vrai que le soleil est impressionnant quand on pense à la puissance extraordinaire qui émane du soleil, que ce soit en lumière, que ce soit en énergie, que ce soit en chaleur. Et dans la parole de Dieu, un texte va nous aider à comprendre, cette fois-ci dans la perspective biblique, à quoi le soleil est associé. Regardez avec moi dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 4, ce qui est écrit au verset 2. Malachie, chapitre 4, nous lirons dès le verset 1, si vous voulez bien. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Pour vous qui craignez mon nom, Alors se lèvera le soleil de la justice. Ce texte prophétique qui nous parle de la fin des temps nous rappelle ce que dit le prophète Jérémie en parlant de Jésus, notre justice, l'Éternel, notre justice. Et c'est vrai que cette image est utilisée de différentes manières dans la parole de Dieu. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière aussi pour chacun d'entre nous parce qu'il veut diriger nos vies, éclairer nos pensées. Il veut être celui qui nous évite de vivre dans les ténèbres et qui au contraire nous donne de vivre dans la lumière, dans la joie, pour reprendre l'image sous ses différentes formes. La Bible emploie ces expressions aussi en parlant du manteau de la justice du Christ dont nous sommes invités à nous revêtir. Nous sommes couverts par la justice du Christ. Et en effet, dans le monde naturel, le soleil a un effet purificateur. Jésus, par sa justice, veut aussi nous purifier et effectivement nous pardonner. Recevoir cette justice du Christ, c'est recevoir son pardon et c'est recevoir cette puissance transformatrice de notre vie. Autrement dit, nous sommes invités à prendre des bains de soleil de la justice du Christ. On est en pleine image des bains de soleil de la justice du Christ. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, une petite explication nous est donnée par rapport à cette lumière. Regardez avec moi dans l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 23. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Pas besoin de soleil dans le royaume des cieux, parce que le soleil, la vraie source de lumière, c'est l'agneau lui-même. C'est lui qui va nous éclairer, c'est lui qui va donner la direction. Ainsi, aujourd'hui, pourquoi ne pas commencer déjà à prendre des bains de soleil de cette justice du Christ, nous exposer à son influence, à sa chaleur, à sa puissance. Finalement, ces bains de soleil sont l'apprentissage de la vie éternelle. Le remède suivant, le cinquième, c'est la tempérance. Vous allez me dire, ah oui, c'est l'apôtre Paul qui disait « Je tiens durement mon corps ». Non, ça c'est pas la tempérance, c'est la discipline. Certains pensent que la tempérance, c'est simplement boire de l'alcool, mais modérément. La tempérance n'est pas en rapport avec la boisson nécessairement, c'est en rapport avec toute chose dans notre vie. La tempérance est souvent définie comme ceci. C'est l'abstinence totale de tout ce qui est mauvais et la modération dans ce qui est bon. Ainsi, la tempérance s'applique à beaucoup de choses dans notre vie. Et la Bible en parle. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul va présenter la tempérance comme le dernier des fruits de l'esprit dans la liste qu'il présente. Et dans nos Bibles, ce mot est traduit par « maîtrise de soi ». Et c'est effectivement cela, maîtrise de soi. Nous sommes invités à porter les fruits de l'esprit et celui-là aussi. Nous savons comment porter les fruits de l'esprit. Jésus l'explique, il donne la recette pour porter du fruit. Il dit « celui qui demeure en moi » et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. C'est le moyen par lequel les fruits vont pousser de l'intérieur en nous, se développer naturellement par la présence de Dieu en nous. Mais nous sommes invités ici à porter ce fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Alors, vous allez me dire, c'est bonne nouvelle pour ceux qui ont du caractère, ceux qui ont une colonne vertébrale en acier. Ceux-là, pas de problème pour la maîtrise de soi. Non, non, ce n'est pas de celle-là dont je parle. Parce que si nous parlons de notre force de caractère personnel, c'est injuste. Où en sont ceux qui n'ont pas cette force-là alors? Sont-ils condamnés à ne jamais porter ce fruit de l'esprit? Non. Souvenez-vous, l'apôtre Paul nous aide à comprendre où est la véritable force. Il nous dit dans 2 Corinthiens, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Pour nous faire comprendre que ce n'est pas de sa force à lui dont il parle, mais de celle qu'il reçoit de Dieu, la vraie. La tempérance est un fruit de l'esprit que nous ne sommes pas capables de porter nous-mêmes en serrant les dents, mais en pliant les genoux, en demandant à Dieu de nous donner la force que nous n'avons pas pour changer en nous ce que nous ne pouvons pas changer. La tempérance, c'est ce remède naturel et ce fruit de l'esprit qui nous est nécessaire et pour lequel l'apôtre Paul nous donne le secret. Il le dit dans l'Épître aux Galates. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Parce que si je vis moi-même, essaye de faire comprendre l'apôtre Paul, je n'y arriverai pas. Si je vis moi-même de ma force et de mon énergie et de mes convictions et de ma puissance, je suis voué à l'échec. Il va falloir crucifier tout cela pour que ce soit Christ qui vive en moi. Là, les fruits vont apparaître. Et la tempérance, la maîtrise de soi, apparaîtra de la même manière, par la grâce de Dieu. Le sixième remède naturel dont il est question, c'est l'air. Nous pouvons ne pas manger pendant plusieurs semaines. Nous pouvons ne pas boire pendant plusieurs jours. Mais nous ne pouvons pas vivre sans respirer plus de quelques secondes. C'est dire à quel point l'air est extrêmement important pour nous. Nous le prenons pour acquis parce que nous respirons sans y réfléchir. Mais plus que quelques secondes sans air, et nous avons un grave problème. C'est donc extrêmement important. Écoutez ce paragraphe que j'ai sorti du livre « Ministère évangélique ». La prière est la respiration de l'âme. C'est le secret de la puissance spirituelle. On ne saurait lui substituer aucun autre moyen de grâce, tout en conservant la santé de l'âme. La prière met l'âme en contact direct avec la source de la vie. Elle fortifie le nerf et le muscle de l'expérience religieuse. Négliger l'exercice de la prière ou ne s'y adonner que d'une façon intermittente quand cela nous convient, c'est perdre contact avec Dieu. Le sens spirituel s'émousse, la religion manque de santé et de vigueur. J'aime cette illustration. La prière, c'est la respiration de l'âme. Je comprends maintenant pourquoi l'apôtre Paul disait « priez sans cesse ». C'est une manière de dire « respirez donc, spirituellement parlant ». Priez sans cesse. Il y a beaucoup de raisons de prier. Mais la manière dont la parole de Dieu le présente nous fait comprendre que cette prière, c'est la respiration de notre âme. C'est un contact constant avec Dieu. Aussi constant que notre respiration dans le domaine physique. Ainsi, nous avons vu que nous devons manger tous les jours. Nous apprenons que nous devons respirer d'une façon régulière, de la même manière dans notre domaine spirituel. Pour ne prendre que deux passages liés à la prière, vous les connaissez. La prière est souvent associée à la vigilance dans les Écritures. Et Jésus, dans Luc 21, dit ceci, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Priez en tout temps. Respirez donc tout le temps. Ne vous arrêtez pas. La prière et la vigilance. Le besoin de cette prière et de ce lien avec le ciel pour être capable de traverser, comme dit le texte, tout ce qui va arriver avant que nous puissions être debout lorsque Jésus apparaîtra. Dans le livre de Daniel, au chapitre 9, se trouve aussi une indication importante concernant la prière. Dans le livre de Daniel, au chapitre 9, nous retrouvons le prophète en prière, justement, dès les premiers versets du chapitre. Daniel prie avec insistance parce qu'il n'a pas compris exactement la révélation que Dieu lui a donnée précédemment. Daniel va prier. Une de ces très belles prières que nous avons dans les Écritures, où Daniel va se présenter à Dieu pour obtenir le pardon des péchés de son peuple, une prière d'intercession. Daniel, serviteur de Dieu, prie pour son peuple. Et le texte est particulièrement intéressant à partir du verset 20. Daniel lui-même explique, il disait, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché du peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit, s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. » Gabriel va révéler ici à Daniel une chose très importante. Dès qu'il a commencé à prier, Dieu a entendu sa prière, y a déjà répondu et a envoyé Gabriel pour y répondre. Daniel lui-même reconnaît, je priais, j'étais en prière, je parlais encore à Dieu. Je confessais mon péché, je confessais le péché de mon peuple, j'implorais Dieu. J'étais en prière quand il m'a parlé par son serviteur Gabriel. C'est effectivement dans la prière que le Seigneur va nous parler. Et c'est vrai que nous considérons la prière comme le moment où nous parlons à Dieu. Et il est peut-être vrai aussi que nous lui disons tellement de choses qu'il n'a pas beaucoup de place pour y répondre. Mais cet exemple de Daniel nous montre à quel point Dieu entend les prières et y répond. Il sait ce que nous avons dans le cœur, il est content de l'entendre, il est encore plus content d'y répondre. Et de même que Daniel avait déjà reçu auprès de Dieu la réponse à sa prière dès qu'il a commencé à prier, Dieu va aussi répondre à nos prières. Parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. Curieusement, dans ce programme de remise en forme physique et spirituelle, le remède numéro 7, c'est le repos. Le repos, nous pouvons encore là trouver plusieurs dimensions au repos. Et dans le domaine spirituel, permettez que j'en prenne deux, simplement pour illustrer notre propos de ce matin. Pour cela, j'aimerais prendre un passage dans l'épître de Pierre, la première, au chapitre 5. Premier épître de Pierre, chapitre 5, au verset 7, l'apôtre nous propose quelque chose d'extraordinaire, une promesse fantastique. Il dit, « Déchargez-vous sur lui, en parlant de Dieu, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous de tous vos soucis. » C'est la première dimension du repos que je voulais souligner, c'est cette assurance que Dieu prend soin de nous, dans tous les domaines de notre vie. Jésus avait dit, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. » Et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est ce que Jésus disait lorsque Matthieu rapporte ses paroles dans Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et il est vrai que ce n'est pas une démarche facile à faire non plus, de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Mais il y a une deuxième dimension à ce repos. Et c'est pour ça que je mentionnais le fait que ce repos est le moyen, le remède numéro 7. C'est celui que lui-même nous a donné dans le quatrième commandement, le sabbat. Le sabbat est un jour de repos, c'est le sens même de ce mot-là. Repos physique, repos pour l'esprit, mais repos aussi dans le sens spirituel où le Seigneur veut nous faire comprendre d'une façon concrète que c'est en nous reposant de nos œuvres que nous pouvons recevoir le salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas par notre activité, par notre activisme, par l'accumulation du bien que nous pensons devoir faire que nous recevrons la grâce de Dieu. Elle nous est offerte comme un cadeau, comme un repos. Le sabbat est en réalité le signe de celui qui a accepté le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est aussi un remède dans le domaine spirituel, parce qu'en réalité, il y a du repos dans l'obéissance. Le huitième et dernier remède dont nous parlerons ce matin, c'est la confiance. Ce remède est lié au précédent. Vous vous souvenez, Jésus disait, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Et j'aime ce que Jésus dit ensuite. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Confiance dans le domaine de notre vie concrète, pratique, dans notre vie quotidienne. Mais confiance aussi dans un Dieu qui a pourvu à tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions être sauvés et avoir aujourd'hui la vie éternelle. L'apôtre Jean disait, celui qui a le Fils a la vie. Il ne dit pas qu'il l'aura, il l'a. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, l'apôtre Paul écrit ceci au verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, confiance. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Sauver d'abord, agir ensuite. Ainsi, nous avons entre les mains les moyens de réaliser ce « new start », ce nouveau commencement. De la même manière que la santé physique peut être recouvrée par l'application de ces remèdes naturels, nous pouvons aussi retrouver une santé spirituelle en utilisant les remèdes de grâce naturels que le Seigneur nous a donnés. La parole de Dieu, la piété, le témoignage, l'action du Saint-Esprit, la justice de Christ, la maîtrise de soi, la prière, le repos, le sabbat, la confiance totale en Dieu, tous des remèdes naturels que nous avons à notre portée, que nous pouvons demander au Seigneur d'appliquer à notre vie spirituelle malade, sans aucun doute, pour nous rendre la guérison. Et en utilisant ces moyens, j'ai l'assurance que le vœu de l'apôtre Jean sera accompli. Dans la troisième épître qu'il écrit au verset 2, l'apôtre Jean dit ceci, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Amen.